Et vos deux heures d'info, c'est avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Et d'abord, nous allons retourner là où tout a commencé, à Wuhan, en Chine. Là-bas, il est précisément minuit et c'est l'heure de sortir du confinement pour la ville et ses 11 millions d'habitants qui ont été mis sous cloche depuis plus de deux mois. On va retrouver notre correspondant dans un instant dans le pays. D'abord, un témoignage. Écoutez le docteur Philippe Klein, il est médecin français à Wuhan.
La victoire est là parce que vous imaginez qu'il y a encore trois semaines, je roulais dans mon véhicule dans une ville fantôme, 11 millions de personnes confinées chez elles. La ville va s'ouvrir sur la Chine demain après trois mois de lutte contre ce coronavirus. On était l'épicentre de l'épidémie. On ne l'est plus. Mais disons que symboliquement, cette nuit, c'est vraiment l'ouverture sur le reste de la Chine. Il va y avoir des célébrations, bien sûr. C'est vécu avec une grande joie. Mais les Chinois restent prudents. Et donc, je devrais en effet me réjouir. C'est une victoire. C'est une renaissance. Malheureusement, la situation est inversée. Ma famille est en France et je suis inquiet pour ma famille. Je suis inquiet pour la France et pour le reste du monde, bien sûr.
La fin du bouclage à Wuhan, quel symbole, témoignage recueilli par Jean-Sébastien Soldaini.
Et Sébastien Lebelzik, vous êtes notre correspondant justement en Chine, Wuhan se rouvre donc, il devient même possible de quitter la ville.
Tout juste minuit ici en Chine et pour les 11 millions d'habitants de Wuhan, c'est l'heure de la libération, le déconfinement après 78 jours d'enfermement. Wuhan, la ville épicentre de l'épidémie, était coupée du monde depuis le 23 janvier. Depuis une semaine, il était possible de rentrer à Wuhan, mais impossible d'en sortir. Depuis aujourd'hui, c'est donc théoriquement possible, mais pour sortir, il faut montrer patte blanche. D'abord, les habitants doivent être munis d'un QR code, un code électronique, sorte de passeport digital qui prouve qu'ils ne sont pas malades et n'ont pas été en contact avec un malade. Ils doivent aussi présenter une attestation de santé, mais aussi une attestation de travail pour justifier leur sortie. Le déconfinement est donc très progressif, d'autant que ces personnes seront par exemple placées à nouveau en quarantaine si elles veulent se rendre à Pékin, la capitale chinoise très hermétique aux voyageurs de l'extérieur. C'est le principe de ce déconfinement en Chine, ville par ville, province par province, en limitant autant que possible les déplacements massifs de population.
Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 en Chine, plus de deux mois donc de confinement là-bas. On en est encore loin ici en France, on entame la quatrième semaine.
Et Edouard Philippe l'a dit tout à l'heure, l'heure du confinement va durer, hein, dixit le Premier ministre, c'était tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
Et aussi longtemps que nécessaire, prévenait déjà ce matin le ministre de la Santé, car nous ne sommes pas encore au pic épidémique. Le gouvernement a ainsi donné carte blanche aux préfets pour durcir encore les mesures de confinement si nécessaire et éviter tout relâchement.
Alors justement, la ville de Paris, la capitale, n'a pas attendu. Bonsoir Emmanuel Grégoire.
Bonsoir.
Vous êtes le premier adjoint d'Anne Hidalgo, la maire. À partir de demain, les activités sportives seront désormais interdites à Paris toute la journée, pour ainsi dire entre 10h et 19h précisément. Dites-nous précisément ce que ça recouvre.
Alors tout simplement, toutes les activités sportives individuelles, hein, c'est ça la terminologie officielle, qui devront être faites avant 10h ou après 19h. Donc pour être très clair, la marche, la promenade est autorisée, mais aucune activité sportive, quelle qu'elle soit.
Donc le vélo en promenade, par exemple,
10h et 19h. Toutes les activités sportives, c'est plus simple pour comprendre, toutes.
Toutes, sauf donc la marche, on aura le droit de se promener. Pourquoi viser uniquement les sportifs? On a vu que le relâchement le week-end dernier concernait aussi les promeneurs qui flânaient au soleil.
Alors tout à fait, il y a deux sujets différents. Il y a les infractions aux règles du confinement, celles-là elles sont sévèrement réprimées, on essaie de les limiter, ça fait l'objet de verbalisation. Mais il y a aussi les dérogations autorisées au confinement. Et c'est là qu'est le problème, c'est que si tout le monde exerce son droit à la dérogation en même temps, ça crée des problèmes avec des pics, des heures de pointe de fréquentation de l'espace public, en fin de matinée et l'après-midi principalement. C'est lié aux gens qui font les courses, aux promenades, aux sorties des enfants, promenades avec enfants, et aux sorties d'animaux domestiques et aux activités sportives. Tous les autres, il est très difficile de les déplacer à des horaires différents. On ne va pas ouvrir les commerces la nuit, on ne va pas demander aux familles de sortir les enfants. Donc on essaye de lisser l'usage de l'espace public et donc d'ajuster les dérogations au confinement de façon à les maintenir autorisées, plutôt que de les interdire de façon générale, parce que nous considérons que ce sont des éléments essentiel à l'acceptabilité et la soutenabilité du confinement, mais qui permet de répartir différemment dans la journée. Et donc voilà, les joggers, ce sera le matin et le soir un peu plus.
Voilà, l'heure des joggers et puis il y aura l'heure des promeneurs. Juste une dernière question, Emmanuel Grégoire, très rapidement. La ville de Paris annonce aussi que des masques en tissu vont être distribués aux Parisiens. C'est pour quand? Et est-ce que, comme à Nice, vous voulez les rendre obligatoires?
Alors, les rendre obligatoires, non, parce que rendre obligatoire quelque chose qu'on n'est pas en capacité de fournir est incongru. Et tant que les filières industrielles ne seront pas en capacité de fournir, il me paraît incongru de le rendre obligatoire. En revanche, la recommandation de port en toutes circonstances, j'insiste, en toutes circonstances, de protection sur le visage et sur le nez est recommandée, très officiellement par nous. Et donc, nous nous organisons pour en fournir en masse le plus rapidement possible, avec une stratégie de long terme qui est l'usage de masques professionnels, les fameux masques chirurgicaux FFP2, et en attendant, parce que même se couvrir avec un simple tissu est mieux que rien, eh bien nous allons organiser avec tout un tissu, nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines, une stratégie d'approvisionnement pour les Parisiens avec des masques normés, mais des masques textiles, en attendant d'avoir des masques professionnels. Il est impératif que les gens prennent conscience que dans la stratégie de déconfinement, de gestion du confinement tel que vous l'évoquez notamment à Wuhan à l'instant, la question du port systématique du masque a été essentielle pour le succès global de la stratégie. Et donc il faut le faire, et donc le faire le plus
merci
possible.
Emmanuel Grégoire. Merci Emmanuel Grégoire d'avoir été en ligne avec nous et de nous avoir précisé donc désormais ce qui se passera pour les Parisiens à partir de 10h le matin jusqu'à 19h, premier adjoint à la mairie de Paris.
Les nouvelles illustrations de l'évolution du discours du gouvernement sur cette question du port des masques. Le ministre de la Santé a dit tout à l'heure devant les députés que l'obligation de les porter était une question ouverte. Près de 4 millions d'ailleurs de ces masques en tissu ont déjà été produits en France la semaine dernière et plus de 6 millions doivent sortir des usines la semaine prochaine.
Et parmi les mesures de durcissement annoncées, le maire de Biarritz, hein, lui, a pris un arrêté pour interdire aux habitants de s'asseoir sur un banc plus de 2 minutes.
Emmanuel Macron lui prévoit de s'exprimer à nouveau jeudi. Nouvelle allocution prévue aux Français. C'est une information Europe 1 de Mickaël Darmon pour faire le point donc sur ce confinement. Aujourd'hui, il a visité une maison de santé en Seine-Saint-Denis et répété que cette crise était imprévisible. Écoutez cet échange avec un médecin qui l'a interpellé justement sur le manque d'équipement de protection.
On n'est pas en sécurité. Donc on a essayé effectivement de voir des solutions un peu de fortune, mais
il faudrait être clair, les plans les mieux pensés n'avaient pas envisagé que la Chine serait touchée et tous les pays en pic en même temps, et que ce qu'on pensait sans valeur il y a 6 mois ou 1 an, on pensait que c'était le truc le plus idiot à faire, d'un seul coup, on serait en rareté.
Voilà, Emmanuel Macron qui était cet après-midi donc dans cette maison de santé en Seine-Saint-Denis. On va y revenir hein, avec les grandes voix, Mickaël Darmon notamment, juste après ce journal. Et je reçois l'épidémiologiste Yves Buisson. Il est membre de l'Académie de médecine qui fait déjà des recommandations et qui préconise un déconfinement, non par âge, mais région par région, vous comprendrez.
Europe 1, il est 18h10, la suite du journal avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Et avec un témoignage, on parle souvent des symptômes des patients malades de ce Covid-19, mais au fur et à mesure, on découvre aussi l'expérience de l'après. Bien sûr, les patients sont nombreux à guérir, heureusement, mais la rémission est parfois longue. Écoutez Anaïs, elle a 48 ans, et après plus de 3 semaines, elle garde encore des séquelles.
Je n'ai aucune idée du temps que ça va durer. J'ai eu un médecin, c'est elle qui m'a dit il faut s'attendre à une convalescence facilement d'un mois. De tousser pendant encore un mois et d'avoir surtout des hauts et des bas. On n'a plus faim, je n'ai toujours pas de goût, absolument pas. Je prends des chips au wasabi juste pour avoir un truc avec du goût. Et un mal de tête, vraiment un étau quoi. Donc on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et c'est une sensation qu'on n'a jamais dans la vie, à part quand on est sous l'eau et quelqu'un garde la tête sous l'eau. Je me suis mise sur Twitter pour avoir des témoignages. C'est rassurant de savoir que d'autres ont eu la même chose. Tout ça m'a énormément aidée, parce qu'on n'a que ça, en fait. Parce que le corps médical, parfois, va moins vite que les témoignages. Et de désangoisser, en me disant « je ne suis pas seule ».
Un témoignage recueilli par Caroline Baudry. Et le docteur Jimmy Mohamed est avec nous, comme chaque soir. Bonsoir, docteur.
Bonsoir, Sébastien.
On entend ce témoignage, hein, cette longue phase de guérison. C'est souvent le cas ?
Alors écoutez, on est vraiment très inégal hein, en fait, d'une personne à une autre. On a des personnes qui vont faire des formes asymptomatiques qu'on va même pas se rendre compte. Certains vont avoir une petite toux qui va traîner pendant 2 à 3 semaines et puis d'autres vont garder une fatigue résiduelle pendant 2, 3, 4 semaines avec, même si vous n'avez plus de température, même si vous n'avez plus de courbature, une tendance à dormir 20 heures sur 24. Des gens qui vont être épuisés et on ne sait absolument pas si derrière il y aura des séquelles ou non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori vous êtes immunisé pour la maladie, mais oui, les séquelles peuvent être un peu plus importantes et surtout la rémission et la convalescence plus longue pour une infection virale classique. Ce qu'on observe habituellement avec une grippe, c'est une période de fatigue qui va durer 1 à 2 semaines, une fatigue qui vous permet de retrouver le travail, alors que là on voit certaines personnes qui sont vraiment très abattues. Tout ce qu'on peut conseiller, c'est du repos, une hydratation correcte et puis d'essayer de vous alimenter, car le catabolisme est très important. Il y a une perte de poids souvent très associée et qui fait que vous allez être encore plus fatigué.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve dans l'émission Santé d'Europe 1. Sans rendez-vous, c'est avec Mélanie Gomez. C'est tous les jours à 15h et chaque soir avec nous pour répondre à toutes les questions sur le hashtag Radio Ouverte.
Les Européens cherchent à surmonter leurs divergences. Réunion en cours ce soir de tous les ministres des Finances de la zone euro. Il s'agit de réfléchir à un éventuel plan de relance. Certains pays s'opposant sur l'idée d'une mise en commun de la dette. Et même de très grands groupes sont menacés. La compagnie aérienne allemande, le géant Lufthansa, par exemple, annonce déjà qu'il va réduire sa flotte et fermer sa filiale low cost Germanwings. Le loueur de voitures Europcar négocie aussi un plan de sauvetage avec plusieurs banques et l'État français. Il lui faut plus de 200 millions d'euros.
En Grande-Bretagne, maintenant, tout le pays est suspendu à l'état de santé du Premier ministre Boris Johnson. Il a été hospitalisé en soins intensifs hier soir.
Élodie Goulet, est-ce que vous êtes à Londres pour Europe 1? Que sait-on ce soir de l'évolution de son état?
Eh bien écoutez, comme depuis le début de son hospitalisation dimanche, les informations tombent au compte-gouttes. Ce que l'on sait pour l'instant, selon un porte-parole de Downing Street, c'est que cet après-midi, Boris Johnson est dans un état stable, qu'il n'a pas de pneumonie et qu'il n'est pas intubé, même s'il est placé sous oxygène. Les Britanniques, eux, vous l'avez dit, sont sous le choc, notamment parce que depuis que le Premier ministre a été testé positif au Covid-19 il y a une dizaine de jours, il continuait à poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Certes, les traits étaient un peu fatigués, mais le moral plutôt bon. Hier encore, il tweetait depuis son lit d'hôpital, remerciant le personnel de santé qui s'occupe de lui et disant qu'il était optimiste. Mais Boris Johnson n'est pas la seule personne qui préoccupe les Britanniques. Beaucoup de messages sur les réseaux sociaux s'inquiètent de sa fiancée, Carrie Symons. Le couple est censé se marier cet été et cette dernière est enceinte de presque 7 mois. Et même la reine Elisabeth II lui a envoyé un message de soutien aujourd'hui, ainsi qu'à la famille du Premier ministre. Du côté du gouvernement, c'est désormais mais Dominique Raab, le ministre des Affaires étrangères, qui prend l'intérim du pouvoir le temps que Boris Johnson se rétablisse.
Élodie Golesque en ligne de Londres, le Royaume-Uni qui recense ce soir 786 décès supplémentaires, un bilan au-delà des 6000 morts. Et en Espagne, après 4 jours de baisse, on en parlait hier, eh bien la mortalité est repartie à la hausse, hein, plus de 700 morts en 24 heures.
Nous irons aux États-Unis également dans le journal de 19h. New York qui enregistre ce soir plus de 700 nouveaux décès. Donald Trump est mis en cause hein, directement. Hein. Un rapport alarmant lui avait été remis fin janvier. À l'époque, le président américain minimisait.
On va terminer, Nathalie, avec une belle initiative solidaire. Et si on se mettait au fourneau pour les soignants?
Mais oui, après maison, avoir chanté, comme ça, on
voilà, pourquoi pas, à la maison, on ferait des gâteaux, par exemple, pour les personnels mobilisés à l'hôpital. Un petit geste qui fait du bien. Un réseau s'est monté. Ils sont maintenant des centaines à le faire. Pierre Herbulot, tout est parti d'une initiative sur les réseaux sociaux.
Oui, elle s'appelle Vos Gâteaux et rassemble près de 4000 personnes, 4000 pâtissiers amateurs comme Liat qui prépare régulièrement des desserts pour les soignants.
J'ai fait des fondants au chocolat, j'ai fait des muffins au Nutella, j'ai fait des gâteaux aux pommes, des gâteaux au yaourt.
Les pâtissiers du groupe se répartissent par quartier. Tout le monde dépose sa contribution sucrée le soir à un point relais. Liat, elle, coordonne tout le 11e arrondissement de Paris.
Nous avons des livreurs qui viennent récolter tous les gâteaux et qui les emmènent à l'hôpital, sachant que tous nos livreurs ont des autorisations des hôpitaux pour les livrer et que tous nos livreurs sont bénévoles.
Une sorte de chaîne de solidarité gourmande aux règles sanitaires très strictes, bien entendu. Maud Arditi a de la famille qui travaille à l'hôpital. C'est elle qui a fait le tout premier gâteau au début du confinement. Aujourd'hui, elle est soufflée par le succès de son initiative.
J'hallucine de voir à quel point les gens sont bons. À chaque fois qu'on demande à quelqu'un de nous aider, bah, ils nous aident. Et là, je n'ai jamais vu un dynamisme et un engouement vraiment une énergie et surtout une bienveillance et une générosité pareille.
Depuis 3 semaines, 40 000 parts de cake au chocolat et autres tartes au citron ont été servies dans les hôpitaux de la région parisienne, mais aussi ceux de Rennes, Marseille, Nice, Lyon et Nantes. Le projet arrive à Bordeaux et peut-être bientôt. En tout cas, c'est ce que souhaite Maud Arditi, aussi à l'étranger.
Voilà, Pierre Herbulot, des milliers de parts de gâteaux, vous pouvez même les faire avec les enfants.
Ouais, c'est super, il faut y aller, il faut se lancer, ça remonte un petit peu le moral, ça fait du bien. Merci beaucoup Sébastien, à tout à l'heure, sans faute, 18h30, un nouveau journal complet, Anissa.